particulier tous les étudiants de GBU. On est heureux de vous avoir parmi nous. Et puis aussi les courageux collégiens qui restent au culte, pendant tout le culte avec nous ce dimanche. Merci d'être là. Merci aussi à Théa et toute l'équipe de Louange pour cette première partie de culte. Et on l'a vraiment rappelé, Dieu règne de toujours à toujours. Mais pourtant, les actualités nous rappellent constamment combien les royaumes de notre monde, y compris les démocraties, sont éloignés de ce royaume d'amour et de justice, ce royaume des cieux que nous promet la Bible. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on se laisse interpeller et encourager par une phrase qui est à la fois une promesse et une invitation. Changez, car le royaume des cieux est proche. Cette phrase, on la retrouve deux fois au début de l'évangile de Matthieu, son récit de la vie, la mort et la résurrection de Jésus. D'abord dans la bouche de Jean-Baptiste qui va annoncer la venue de Jésus, et puis un peu plus tard dans celle de Jésus quand il commence sa vie publique. Et entre ces deux phrases, il se passe deux choses, le baptême de Jésus par Jean-Baptiste et le séjour de Jésus au désert pour y vivre ce qu'on appelle les tentations. Et aujourd'hui, c'est au désert que je vous propose de nous rendre nous aussi, et particulièrement parce que les royaumes de notre monde me semblent souvent une caricature de ces trois tentations que Jésus y vit et qu'on pourrait appeler les trois P, possession, prestige et pouvoir. Alors certains d'entre vous étaient peut-être là il y a quelques semaines quand Élisée a prêché sur ce même texte des tentations pour nous montrer quel type de roi est Jésus, si différent des rois de ce monde. Et aujourd'hui, je vous propose de poursuivre cette réflexion et de voir ce que ça implique pour nous de laisser Jésus être roi dans le monde où nous vivons. Je crois que suivre Jésus, c'est une démarche radicale, souvent à contre-courant de notre monde. Une démarche qui vient constamment changer nos cœurs. Et je crois aussi que ces trois P, possession, prestige, pouvoir, à l'œuvre chez les dirigeants de notre monde, sont le reflet de nos propres cœurs. Et que c'est avant tout ces cœurs que Dieu veut changer. Le désert, c'est justement ce lieu dans toute la Bible où Dieu vient parler au cœur des hommes et des femmes. C'est le lieu que va traverser son peuple, le peuple d'Israël, après avoir été libéré d'Égypte où il était esclave. C'est le lieu où on apprend à faire confiance à Dieu et à exercer notre liberté. C'est donc tout simplement ce monde où nous vivons. C'est dans ce monde que Dieu vient nous changer, pas dans un paradis imaginaire ou rêvé. Et ce qui nous change, c'est son amour. L'amour est le premier. On ne change pas, bien sûr, pour être aimé de Dieu, mais parce que Dieu nous aime. Et changer, on va le voir dans le texte, c'est deux mouvements à première vue opposés, mais intimement liés. Changer, c'est d'abord décroître, diminuer. Et ce qui doit diminuer en nous, ce sont justement ces trois P, ces trois pièges, possession, prestige, pouvoir. Mais changer, c'est aussi nous élargir et laisser l'amour dilater nos cœurs. Et on va découvrir aussi, dans ce texte, trois autres P bien différents, trois promesse de Jésus. Alors je reprends l'idée qu'avait eue Élisée il y a quelques semaines et je vous propose pendant la lecture du texte d'associer un son à chaque personnage du récit. Donc chaque fois que vous entendrez Jésus, vous pourrez dire notre roi. Donc Jésus, super, Dieu, il est. Le diable, le tentateur ou Satan, et les anges, super, vous êtes prêts. Alors, je vous rappelle qu'on se situe juste après le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Alors, l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur, ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan. » Car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa. Et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Amen, merci. C'est l'amour qui nous change. J'ai choisi volontairement de commencer la lecture de ce texte par la fin de l'épisode du baptême de Jésus, avec cette voix qui descend du ciel et qui déclare « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Parce que c'est cette voix qui change tout. C'est avec cette voix que Jésus est conduit au désert pour y être tenté. Cette voix sera toute sa force et toute sa vulnérabilité. Et cette voix, elle vaut aussi pour toi, aujourd'hui, qui que tu sois, quoi que tu aies fait, quoi qu'on t'ait fait, tu es l'enfant bien-aimé de Dieu. Et je t'invite maintenant, si tu le veux, à le dire à haute voix, à ton voisin, ta voisine, tu es l'enfant bien-aimé de Dieu. Mais cette voix, tu en as sûrement déjà fait l'expérience, cette voix, elle est sans cesse aussi parasitée par d'autres voix, par des voix qui nous disent comme à Jésus, si Dieu t'aimait vraiment, si tu étais vraiment son enfant, tout ça ne t'arriverait pas ou tu pourrais empêcher tout ça. Et ces voix dans le texte qu'on vient de lire, elles ont trois noms. Le tentateur, c'est-à-dire celui qui met à l'épreuve. Le diable, celui qui divise. Et Satan, celui qui accuse. Et ces voix qui nous déchirent, qui nous accusent, elles se déchaînent particulièrement quand, comme Jésus, nous avons faim et nous sommes fragiles. Jésus vient de rester 40 jours, 40 nuits sans manger. Et toi, de quoi as-tu eu faim ces 40 derniers jours? D'une réussite, un examen d'une réponse positive, d'une guérison. Toutes des fins, bien sûr, ô combien légitimes, mais c'est important de les connaître parce que c'est exactement à cet endroit que les petites voix du désespoir vont attaquer. Pour moi, je sais que c'est souvent dans mon manque de confiance en moi. Pour un ami, ces voix le font douter que Dieu l'aime comme il est. Et en définitive, c'est ce qu'elles essayent de faire pour chacun de nous, nous faire douter de l'amour de Dieu, de notre identité profonde d'enfant de Dieu, nous donner envie, comme le peuple d'Israël, de retourner en esclavage, en Égypte, là où nous n'avons pas à vivre libre, c'est-à-dire à discerner, à choisir, et donc à renoncer. Ces voiles peuvent nous faire peur, mais Jésus nous montre dans ce texte qu'on peut les traverser, comme lui, les mains nues, avec pour seul guide ce murmure doux et léger. Tu es l'enfant bien-aimé de Dieu. Alors, ces voix du tentateur, elles nous présentent trois pièges, les trois P. Le premier, c'est notre désir de possession. Changer les pierres en pain, assouvir d'un coup de baguette magique notre faim, quelle qu'elle soit, sans attendre et une fois pour toutes. Un désir tellement actuel avec ce mythe de la croissance et de la consommation sans limite et ses conséquences désastreuses sur notre planète et les plus pauvres. Un désir présent aussi chez les chrétiens avec ce qu'on appelle la théologie de la prospérité, une théorie selon laquelle le bon chrétien prospérera financièrement. Mais Jésus nous promet absolument pas la prospérité. Et je crois au contraire qu'il nous appelle à la décroissance. Comme le dit justement Jean-Baptiste, lui, Jésus, doit devenir de plus en plus grand et moi, de plus en plus petit. Laisser la place à l'amour de Dieu dans nos vies, c'est laisser diminuer en nous ces trois pièges. On parlait ce matin aussi du feu dévorant. Laisser ce feu dévorer en nous ces trois pièges. D'abord, le désir de possession. Notre monde nous dit sans cesse « plus, c'est mieux », alors que Jésus, par toute sa vie, nous dit « moins, c'est mieux ». Suivre Jésus, c'est prendre conscience que rien ne t'appartient, ni tes biens, ni les personnes qui t'entourent, ni tes projets. Alors, on vit bien sûr dans un monde complexe et on a souvent à choisir la moins mauvaise solution. Mais je t'invite, là où tu en es aujourd'hui, à juste laisser résonner en toi cette question. Qu'est-ce que je peux diminuer dans ma façon de consommer? Et je peux penser par exemple à mes choix de nourriture et de vêtements pour que règne plus d'amour et de justice. Deuxième piège à laisser décroître, c'est notre désir de prestige, d'être admiré. Et on a tous entendu il y a peu une version moderne de ce Dieu qui envoie ses anges pour sauver son élu qu'il aurait fait échapper à un assassinat pour qu'il devienne président des États-Unis. Un désir de prestige sans cesse amplifié par les médias et les réseaux sociaux, et un désir présent aussi dans les églises qui guettent particulièrement ceux et celles qui, comme moi en ce moment, interviennent devant. À la suite de Jésus, tu peux au contraire découvrir qu'être aimé te suffit. Tu n'as pas besoin d'être admiré. Et je t'invite à te poser cette deuxième question. Qu'est-ce que je peux diminuer dans ma façon de communiquer? Et en particulier dans mon usage des médias et des réseaux sociaux, pour que règne plus d'amour et de justice. Troisième et dernier piège, notre désir de pouvoir. Et on a malheureusement tous les jours des exemples de cette volonté d'étendre son pouvoir à d'autres royaumes du monde, peu importe les moyens. Une conférence qui a été organisée récemment, ici, sur les abus dans les églises, nous montre encore combien ce désir de pouvoir peut aussi concerner les chrétiens. Et chacun de nous, en prenant notre place dans ce monde, nous pouvons avoir tendance à imposer aux autres nos idées, nos désirs, nos façons de faire. Aux antipodes de cette soif de pouvoir, Paul, un des premiers chrétiens, a écrit ceci. « C'est quand je suis faible que je suis fort. » Et je t'invite à te poser cette dernière question. Qu'est-ce que je peux diminuer dans ma façon de prendre ma place, par exemple quand je rends service ou quand je mène un projet, pour que règne plus d'amour et de justice? Alors changer, c'est décroître, mais c'est aussi nous élargir. Et ce désencombrement radical, on n'y arrive bien sûr pas par nos propres moyens. Alors, face aux trois pièges du tentateur, Jésus nous propose trois autres paix, trois promesses. Des promesses qui, à la fois, prennent tout leur temps et durent, bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Sa parole, sa présence et la prière. La première promesse de Jésus, c'est la parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. On l'a chanté juste avant cette prédication, et puis c'est la première réponse de Jésus au tentateur. Et en fait, chacune des réponses de Jésus aux trois pièges du tentateur vient de cette parole de Dieu, de la Bible, et plus précisément, du dernier des cinq premiers livres de cette Bible qu'on appelle le Deutéronome. Deutéronome, ça veut dire la seconde loi. Et c'est le livre où le peuple d'Israël va se répéter les paroles de Dieu pour les interpréter, pour les faire siennes, pour apprendre à en vivre exactement comme nous aujourd'hui, quand on lit la Bible dans un vieux livre ou sur un smartphone. Et surtout quand on laisse cette parole nous changer en profondeur et élargir nos cœurs. Un travail de tous les jours, parce qu'on n'en a jamais fini et que ce n'est pas toujours facile de lire des textes écrits il y a des milliers d'années. Et c'est bien sûr OK d'avoir des doutes et des questions. J'en ai moi-même souvent. Mais très souvent aussi, je suis profondément nourrie par cette parole qui se renouvelle sans cesse. Alors la Bible, peut-être que tu ne connais pas trop, ou peut-être que tu as envie d'encore mieux la découvrir. N'hésite pas en tout cas à venir nous en parler. On a des ressources qui pourraient t'aider, puis des groupes d'études bibliques où tu es bienvenue. N'hésite pas aussi à venir parler aux étudiants des GBU, des groupes bibliques universitaires en fin de culte. C'est aussi parce qu'on la partage que cette parole nous nourrit. La deuxième promesse, c'est la présence de Dieu. Je me souviens d'un pasteur dont la femme avait un cancer du sein et qui disait que Dieu ne nous promet pas de nous enlever notre souffrance, mais de la remplir, de venir l'habiter de sa présence. Et les anges, dans le texte qu'on a lu, représentent cette présence de Dieu. Comme on l'a dit, il est. Non pas comme un dû, quand je veux, où je veux, en lui forçant la main, comme le propose le tentateur, comme le disait Théa, Dieu n'est pas ce gentil barman, mais comme un don, toujours neuf, toujours surprenant. Une présence qui nous guide dans le désert et comme le peuple d'Israël élargit notre cœur en nous faisant passer par des chemins inattendus. Une présence qui nous accompagne, même au-delà de la mort, et qu'on peut déjà voir chaque jour dans nos vies. Dieu est là dans ce sourire réconfortant, dans ce pardon échangé, cette initiative pour plus de justice. La troisième promesse, c'est la prière. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. C'est la dernière réponse de Jésus au tentateur. Prier, c'est adorer Dieu et lui seul. Et on rejoint vraiment ce que Théa nous a si bien rappelé en ce début de culte. Aujourd'hui, dans le langage courant, on adore beaucoup de choses, un film, un livre, une personne. Mais adorer, littéralement, ça veut dire prier vers. Et prier vers Dieu, c'est te tourner vers son amour, le laisser être qui il est, c'est-à-dire le laisser t'aimer. Comme un tournesol qui se tourne vers le soleil. Et peut-être que pour toi, c'est un peu dur pour l'instant de prier. Trop de soucis, de peur, de colère. Je t'invite pourtant maintenant, où tu en es, à rester un petit instant en silence et simplement te laisser aimer par ce Dieu qui, en la personne de Jésus, a choisi de renoncer à toute possession, tout prestige et tout pouvoir pour te donner sa vie jusqu'au bout. Ce Dieu dont l'amour et la justice vont bien au-delà de toutes nos morts et auront un jour le dernier mot dans chacune de nos vies et dans ce monde. Je t'invite à tourner maintenant en silence vers ce Dieu, comme un tournesol qui se tourne vers le soleil. Changer, car le royaume des cieux est proche. Que cette promesse et cette invitation à une contre-culture heureuse résonnent en nous cette semaine. Que Jésus, notre roi, vienne désencombrer notre façon de consommer, de communiquer et de prendre notre place dans ce monde. Et que sa parole, sa présence et la prière élargissent nos vies. Oui, Père. Que règne ton amour et ta justice en chacun de nos cœurs et en ce monde. Amen.